brûlé en 1965. Nous sommes dans le Hampshire, au cœur de l'Angleterre. La ville portuaire de Southampton, place forte de près de 200 000 habitants, est victime du calme de l'hiver. Dans quelques instants, dans un jardin au cœur d'un petit quartier résidentiel, un homme va mettre fin à ses jours, fatigué des affres de la vie et des soucis de son existence. Nous sommes le 10 janvier 1965, en fin de matinée. La montre bon marché accrochée au poignet gauche du mourant affiche 11h30. 11h30, l'heure âge de mon histoire. Les clochers de la vieille ville sonnent un nouveau quart d'heure de cette matinée maussade. Frédéric Fleet se balance lentement au bout d'une branche. Dans ses derniers songes ressurgissent les ombres de son passé, celles d'un froid mortel, d'un iceberg, celle du Titanic. Quelques heures plus tôt, le vieil homme de 77 ans s'est réveillé en sursaut. La pendule sur la petite table de chevet affiche 5 heures du matin. Il est en sueur. Encore un cauchemar. Il en fait tout le temps. Son rêve est lié, bien entendu, à ce foutu iceberg, droit, fier, brillant dans les dernières lueurs de la lune et chaque fois inévitable. Si lui, Frédéric Fleet, avait survécu en 1912, ce n'était jamais le cas de ses rêves. Il s'y faisait chaque fois écraser, ou pire encore, comme cela a été le cas cette nuit d'ailleurs, il a été victime de la température des eaux gelées qui provoquait sa mort. Il y a bien longtemps en effet, cet homme avait été la vigie d'un navire de croisière. Il l'avait vu dans les eaux glaciales de l'océan, ce monstrueux géant des glaces. Il l'avait vu trop tard, cependant, pour réagir et faire en sorte qu'il ne percute pas l'insubmersible navire traversant l'Atlantique pour la première fois. Le Titanic. On parle ici de 269 mètres de ferraille, de ponts supérieurs et inférieurs, de cheminées, de salles des machines. Des 269 mètres de cuisine, de salles de bal et de cale. Et une multitude de passagers, aux histoires uniques, aux moyens variés et aux espoirs bien différents. Voilà plus d'un demi-siècle que les visages qu'il a croisés durant ses semaines de navigation ne cessent de lui revenir en songe. Les vagues, l'une après l'autre, percutent les mâts de son âme, s'engouffrent dans les voiles de ses rêves et attisent sa culpabilité. Péniblement, enfilant une miteuse paire de pantoufles en sortant de son lit, Frédéric Fleet va dans la cuisine se servir un café. Serré, noir, sans sucre. Le même depuis 65 ans. Sa vie, elle, qui a connu bien des tempêtes et le poids de l'écume aujourd'hui, est devenue bien trop lourde à porter. Il est trop tard. Plus rien ne viendra combler le vide occasionné par la perte de sa femme et le poids de la vieillesse qui s'installe chaque jour un peu plus. Une tannée. Le coup de grâce lui a été donné il y a quelques mois. Alors qu'il se sert une deuxième tasse de café, loin d'être extraordinaire, il repense à cette discussion qu'il a eue avec son beau-frère la fin de l'automne. Le sachant sans le sou, ce dernier voulait le foutre dehors, l'air de rien. Maintenant que sa sœur est morte, pourquoi ce beau-frère qui ne l'aime pas devrait-il tenir son engagement? Il lui a laissé 6 mois pour plier bagages et trouver une autre maison. Mais se reloger dans le Hampshire quand on n'a pas le sou, ben c'est mission impossible. Alors devant l'impossibilité d'envisager l'avenir avec dignité, Frédéric a fait son choix. Sa matinée se déroule exactement comme toutes les autres. Après le café, Frédéric Fleet prend sa douche. Il enfile une chemise en soie blanche et une cravate fleurie bleue et rouge. Un gilet en laine boutonnée couleur marine vient compléter l'ensemble et cacher ses bretelles. Il repasse par la salle de bain pour peigner une dernière fois ses cheveux aussi blancs que la neige qui est tombée au dehors il y a quelques jours. Ensuite, Felric s'installe à la table de la cuisine. Il est seul. Son beau-frère est parti le temps qu'il vide ses affaires. Il est tout seul dans cette grande maison pavillonnaire et il ne cesse de réfléchir. Pas que sa décision ne soit pas arrêtée, elle l'est depuis longtemps. Mais il ne s'est pas encore décidé sur le timing. Comme à son habitude, Frédéric se met à lire le Times et après quelques pages, finit par somnoler. Le voilà qui replonge dans ses pensées sur le pont supérieur du Titanic. Il est avec le capitaine dont la barbe blanche et lisse conforte toute son autorité et son expérience. Frédéric Fleet se voit hurler à 23h40 de toutes ses forces afin d'avertir les officiers de l'imminence du danger. Et puis, plus rien, le trou noir. Victime d'un syndrome de stress post-traumatique déclenché des mois après, son esprit, embué, malade, a fait le choix de faire une croix sur le quart d'heure qui a suivi le choc entre le monstre de fer et celui de glace. Fleet a totalement oublié ce moment décisif. Il se voit hurler, tenter de prévenir, et puis c'est le capitaine du navire qui le ramène à la réalité. Mais bien après que la catastrophe ne soit déjà en marche. Et ça, ce trou rempli de vide, ça le torture depuis bien trop longtemps. Seul, depuis le départ de sa femme dans l'au-delà, seul depuis l'ultime trahison familiale, le voilà sur une pente glissante dont il veut contrôler la chute. Une fois sorti d'une énième somnolence, Fleet se rend dans la cave pour y prendre une corde qu'il a achetée la semaine précédente. Robuste, tressée à la main, elle rippe dans ses vieilles mains calleuses et maladroites. Il quitte ses pantoufles pour enfiler une paire de chaussures décentes. Il accède au jardin par la baie vitrée du salon. Là, devant ses yeux, un pommier en pleine force de l'âge étale ses branches dénudées par l'hiver et ses bras tortueux semblent l'appeler. Cet arbre a été planté en 1912. Tout un symbole. C'est l'année du naufrage. Toujours en toile de fond, la catastrophe de sa vie et celle de beaucoup d'autres. Quelque part, c'est comme si une malédiction s'était abattue sur Frédéric Fleet depuis ce soir d'avril où le seul bateau au monde, réputé pour être insubmersible, a sombré au contact des éléments. Il ne sait dire pourquoi et d'où c'est venu. Mère Nature a-t-elle voulu punir les hommes pour leur arrogance, sans limite ni mesure sur ce projet? Ou alors, les centaines d'esprits pris au piège dans ces eaux glacées l'ont-ils suivi, lui et tous les survivants? Quoi qu'il en soit, Frédéric Fleet ne peut le supporter plus longtemps. Alors que son destin lui promettait un brillant avenir à bord du mastodonte Titanic, sa misérable carrière ensuite n'aura été que déconvenue, le conduisant à devoir vendre des journaux dans les rues de Southampton. Pour lui, qui était un fils de la mer, la pilule avait été rude à avaler. Au fond, Fleet a le sentiment d'avoir vécu la vie d'un autre. Comme il le peut, avec un escabeau qui tient lieu d'assistant bourreau, Fleet enchaîne les rôles. Avocat, juge, condamné. Et la sentence est irrévocable. La mort par pendaison. Et par là même, la fin de sa punition infligée pour sa négligence en 1912. Le froid glacial de janvier qui passe entre ses mains lui rappelle celui des eaux de l'Atlantique, alors qu'à l'horizon, le Titanic était en train de sombrer, happé par Poséidon et ses soldats. L'histoire de sa vie se termine au bout de cette corde. 34 secondes. C'est le temps que l'ancienne vigie mettra à mourir. Exactement le même temps qui s'écoula entre sa vision de l'iceberg et l'impact. Le poids des symboles. Notre histoire commence 53 ans plus tôt. Nous sommes le 12 avril 1912. Frédéric Fleet est bien différent de celui que nous venons de laisser dans ce jardin anglais du Hampshire. Le jeune homme de 24 ans, svelte, particulièrement élégant dans son uniforme de vigie du nouveau navire à la mode, est très fier d'être de ce premier voyage vers les États-Unis. En effet, les semaines précédant le départ, il marchait dans la rue tête haute, impatient comme un gosse, prêt à déballer ses cadeaux un matin de Noël. Tout va bien pour lui. Le jeune vigie est fiancé à la femme la plus magnifique qui lui a été donnée de rencontrer. Ce nouveau job est bien payé et il pourra voir du pays. Frédéric va découvrir New York et la Statue de la Liberté pour la première fois. Il est ravi, comme vous pouvez l'imaginer. Quand il n'est pas en service, au lieu d'aller dormir dans sa cabine, Frédéric préfère passer ses heures de pause sur le pont principal. Il aime voir fondre les vagues de l'océan, sentir sous ses pieds la puissance du Titanic, véritable montagne métallique au moteur surpuissant. Tout pour lui est un bonheur qu'il ne peut même pas décrire. Ses boucles brunes bercées par le vent sont enduites de sel des profondeurs marines. Ses yeux, eux, fuient en direction des étoiles, cherchent les planètes, alors que ses pieds semblent presque danser sur le parquet du pont principal. Quel spectacle magnifique de voir cet homme qui découvre encore les joies d'un bonheur simple et dont la trajectoire professionnelle s'ouvre de la plus belle des manières. Ce poste de vigie n'est pas le plus simple. Ici, on les appelle les veilleurs. Depuis le départ de Southampton 2 jours plus tôt, ce sont eux, le regard et les oreilles du chef de bord et de ses équipes commandantes. 2 escales, une à Cherbourg, une à Queenstown, ont permis de roder les effectifs. Ils sont 6, les veilleurs, et travaillent par binôme. Le sien est un de ses amis, Reginald, un homme de confiance. Les durées de service des veilleurs sont les plus prenantes de tout l'équipage. 2 heures de travail, 4 heures de repos, et ainsi de suite, 24 heures sur 24. Autant vous dire que dès le 12 avril au soir, les cernes de Frédéric sont bien visibles et accompagnées d'une bonne sinusite. Oui, car leur lieu de travail avec ça est particulièrement exposé au vent. C'est ce qu'on appelle le nez de pie, petit perchoir à plusieurs mètres de haut tout près de la plateforme de navigation. Les rois du monde, en quelque sorte. Leur rôle, lui, est crucial. Notre héros du jour en a pleinement conscience. Ils ont la charge de décoder les signes de la présence d'icebergs ou d'obstacles en tout genre grâce notamment aux vaguelettes qui se forment autour du navire et de signaler la présence de difficultés potentielles sans attendre au commandement. Cependant, les veilleurs se sont plaints dès les premiers roulements d'un problème particulièrement cocasse. Aucune paire de jumelles dans le nid de pie. Comment est-ce possible ? Un bâtiment comme celui-ci n'a-t-il pas été en mesure d'être équipé convenablement ? Ce que tout le monde ignore alors, c'est qu'un officier muté au dernier moment sur l'Olympique, le jumeau du Titanic, est parti sans dire à quel endroit il a rangé ses fameux instruments. Absolument hallucinant. Mais cette anecdote, vous allez le voir, pourrait à elle seule illustrer la chute du Titan. La roue du destin, elle, continue de tourner. Nous sommes à 48 heures du cataclysme. Le Titanic et ses 2 jumeaux, l'Olympique et le Britannique, sont les bateaux de tous les superlatifs. Armada transatlantique, les 3 navires vont servir à relier l'Europe aux États-Unis en un temps record. Le Titanic est le premier à tenter l'aventure en fendant les vagues et le courant le 10 avril 1912 en direction des côtes américaines. Imaginez, un paquebot de 269 mètres de long qui consomme 600 tonnes de charbon chaque jour. Près de 180 marins étaient chargés de l'alimenter. Une véritable petite armée des profondeurs. Durant la traversée, des équipes de journalistes décident de publier une gazette qui sera distribuée dans les cabines tous les matins. À l'instar du Daily Mail ou du Times, chaque voyageur peut y lire les dernières nouvelles du navire. The Ocean Times est une invention tout à fait inédite à l'époque. 3 catégories de tickets ont été mis en vente. Ceux de première classe coûtent par passager un peu plus de 90 000 de nos euros actuels. une vraie folie. Les déclarations de cette classe plus que luxueuse ont été inspirées par les décors du Ritz de Londres, juste histoire de ne pas dépayser les aristocrates de la capitale. 20 000 bouteilles de bière, 8 000 cigares, 1 500 bouteilles de vin uniquement mis à la disposition de la première classe. C'est dans ces quartiers que figure le fameux grand escalier, certainement l'élément de décoration le plus célèbre du géant. Et quel escalier ? Uniquement réalisé en boiserie de chêne, taillé, ornementé, il permet au mieux loti d'accéder en direct à 7 des 10 ponts du navire. Les services à table sont composés de 10 ou 11 plats. Cet étalage de luxe ne se retrouve bien entendu pas dans la deuxième et troisième classe où les conditions de voyage sont bien moins extraordinaires. Mais il faut dire que la barre en première est mise très haut. Ce sens de la démesure se retrouve dans la structure même du navire. L'ancre principale du bâtiment devra être tirée par 20 chevaux de trait. Oui, 20 pour être installée. 885 membres d'équipage, 2200 voyageurs, 13 couples célébrant leur lune de miel et une dizaine de chiens. Voilà une véritable petite ville sur les flots, le tout sous le commandement du capitaine Smith et de sa célèbre barbe blanche. Le navire, de tous les superlatifs, a cependant pâti de la trop grande assurance de ses constructeurs, notamment au travers du nombre de canaux disponibles pour la sécurité des passagers. En effet, les canaux fixes permettent de sauver seulement 962 personnes. Disons tout de même que 4 canaux pliables ont été ajoutés par la compagnie, portant les places disponibles à 1178. Moins de la moitié donc, quand on prend en compte les membres de l'équipage. Bah, il faut dire qu'il a été qualifié de presque insubmersible par ses bâtisseurs, qui sont d'ailleurs du voyage. Alors, excès d'arrogance ? Nous verrons cela un peu plus tard. La nuit du 12 avril, en tous les cas, est belle comme toute la journée du 13 avril. Pas grand-chose à signaler en réalité. La veille de l'accident est marquée par l'annulation d'un exercice de sauvetage prévu autour des canaux. Ironie de l'histoire, peut-être. Aucun signe de glace n'est relevé avant le petit matin du 14 avril. Le Titanic a déjà parcouru près de 2700 km. Oh, il n'est pas spécialement rapide. Une légende tenace voudrait que la compagnie cherchât à battre un record de vitesse pour son arrivée à New York. Il n'en est rien. Tout le monde, ingénieurs et dirigeants, sait bien que ce géant des mers n'a pas été construit pour être un navire de course. Le confort avant toute chose. C'est donc le 14 avril, un peu avant 9h, que le capitaine Smith est averti par son équipage qu'un autre navire de la zone rapporte la présence de glace et d'iceberg sur son itinéraire. En début d'après-midi, 3 autres bâtiments qui traversent la zone les signalent. De gros avertissements, en somme. Mais Smith, pourtant loué depuis la catastrophe pour son héroïsme, hausse le sourcil gauche et répond avec dédain qu'il sait ce qu'il fait. Il reçoit pourtant un 5e message dans ce sens au début de la soirée, mais même réponse. Ses équipes sont moins certaines que lui de devoir continuer dans cette direction. Tout au contraire. Prendre des risques inconsidérés pour gagner une journée ou deux, à quoi bon après tout ? Mais le big boss est clair. On maintient le cap. Aux veilleurs sans jumelles, je vous le rappelle, d'être vigilants. Un 6e message est transmis aux veilleurs à 19h30. De derniers avertissements d'un autre navire marchand en 21h40 ne seront pas transmis à l'équipage. Nous sommes à 2h du choc fatal. Notre héros, le jeune Frédéric, prend son service peu après 22h avec son coéquipier. 30 minutes plus tard, la température de l'eau avoisine les 0 degrés. La température de l'air, elle, est déjà à ce niveau depuis plus d'une demi-heure. 22h55. Sur le canal radio qui relie les navires et les autorités portuaires, un navire pris dans les glaces 20 000 au nord de la position du Titanic décrit une situation alarmante. L'opérateur du géant qui intercepte le message est alors en communication avec les autorités de Caprès à proximité. Sa réponse aux avertissements qui lui sont prodigués est lapidaire et reflète bien l'état d'esprit teinté d'arrogance et de suffisance de tout l'équipage. « Dégagez, taisez-vous !»« Enfin, taisez-vous, je suis en communication avec Capres !» Dans moins d'une heure, ce sera le choc. Et dans son nid de pire, Frédéric et son collègue grelottent de froid, les yeux rivés sur l'eau. La lune, elle, n'a pas pointé le bout de son nez ce soir, et elle ne sera pas leur complice. Pas de courant non plus, pas même des vaguelettes. Frédéric rumine, à tous les coups. Ce quart-là ne va pas être facile. Vivement qu'il puisse aller dormir. Avril 1912, 23h40. Frédéric à son poste se gèle. Sans jumelles, son collègue et lui plissent les yeux autant que possible afin d'anticiper les dangers qui s'annonçaient sur le chemin du géant des mers. Ils ne sont pas au courant des avertissements reçus à la radio. La ligne téléphonique du nid de pire n'a pas sonné. Et alors que les deux hommes discutent de leur prochaine pause et de cette sieste qu'ils attendent avec impatience, Frédéric, les yeux rivés sur les eaux, découvre l'impensable. Devant lui, droit devant la coque du navire, un iceberg dépassant de la surface de l'eau de plus de 30 mètres se détache devant eux. Il est à moins de 500 mètres. Le navire avance à une vitesse proche des 45 km par heure. Il faut agir. Vite, ou ce sera la catastrophe.